RFI, Grand Reportage, Jacques Alix.
Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Reportage, le supplément du dimanche, avec nous Youen Gourlet et Guillaume Thibault pour deux reportages bien sûr. Direction la Côte d'Ivoire dans cette émission. Guillaume, dans une petite demi-heure, nous fera revivre le FEMUA, Festival des Musiques Urbaines d'Abidjan. De la musique, certes, mais le FEMUA, c'est un peu plus que cela. On parlera partage et équité notamment. Et nous restons dans le pays pour ce premier sujet, consacré à ce début de libération de la parole dans le monde du sport ivoirien. Le déclencheur, le procès Tadjou Attada, fin février dernier, l'ex-entraîneur national de taekwondo, a été condamné à 6 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende pour harcèlement moral. Le réquisitoire n'a pas été suivi, il allait au-delà avec une qualification de harcèlement sexuel. Au final, l'accusé a fait appel, la procédure judiciaire n'est donc pas finie, mais la sentence en première instance a fait sensation. Car pour la première fois, une athlète en Côte d'Ivoire a eu gain de cause. Elle a courageusement porté plainte et a été entendue, au moins partiellement. Mariama Cissé, nous allons le voir, a ainsi réveillé bien des espoirs pour bien des femmes dans le monde du taekwondo, du sport plus largement et au-delà dans la société ivoirienne. On écoute ses témoignages, ses espoirs, cette émotion et on retrouve Youen Gourlet dans 20 minutes.
Le 21 février dernier, Mariama Cissé sort de la salle d'audience du tribunal correctionnel d'Abidjan soulagée. Elle enlace émue sa mère et ses amis venus la soutenir. Ce jour-là, Tadjou Attada, ex-entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo, est condamné à 6 mois de prison et 500 000 francs d'amende pour harcèlement moral. Une condamnation inédite dans le sport ivoirien. Sur le moment, Mariama Cissé comprend qu'il s'agit d'une condamnation pour harcèlement sexuel, comme l'avait requis le procureur. Elle reçoit même les félicitations par téléphone de la double championne du monde et double médaillée olympique, Ruth Bagby.
Ah, félicitations. Merci beaucoup, merci André.
Mariama Cissé accusait son entraîneur d'avoir bloqué sa carrière pour avoir refusé ses avances répétées. Elle n'avait ainsi pas pu participer au championnat d'Afrique organisé à Abidjan en novembre 2023.
Ce que j'espérais, c'était qu'il soit reconnu coupable. C'était mon souhait le plus ardent. Pour moi, c'est beaucoup de joie. Ça me fait penser et ça me fait croire que j'ai atteint un objectif, un combat qui n'est pas véritablement mis sur table en Afrique. Je pense que ce combat-là va interpeller d'autres personnes, même si ce n'est pas dans le milieu du taekwondo. J'ai envie d'inspirer aussi des jeunes femmes qui ont vécu la même chose, mais qui vivent même la même situation. Qu'on n'est pas condamné à vivre cette situation, en fait. Ce n'est pas nous les coupables, mais plutôt des victimes. Donc si on a l'occasion de parler, il faut qu'on parle.
À ses côtés, son avocate maître Francine Akaangui estime qu'il s'agit d'un procès historique.
C'est vraiment une première. Parce qu'en général, ce genre de dossier n'arrive pas jusqu'au jugement. Vous voyez, on a toujours des règlements à l'amiable, des pressions familiales, des pressions du monde même du sport, etc., qui font que souvent les victimes laissent tomber avant la fin de la procédure. Et c'est bien la première fois qu'un dossier arrive jusqu'à une décision de justice et nous en sommes très satisfaits.
En face, maître Panfolier Koulibaly, l'avocat de Tadjou Attada, réfute l'idée du harcèlement.
Mais on ne peut pas contrôler le balancement du cœur. Il est tombé naturellement amoureux, raison pour laquelle il y a eu ces échanges. En aucun cas, il l'a harcelé. Il l'a simplement dit, il a simplement fait des avances à quelqu'un qu'il estimait aimer. Donc nous avons estimé que l'infraction pénale n'était pas constituée, puisqu'il n'a pas subordonné à l'acceptation de ses avances à un quelconque avantage.
Prise par l'émotion, ce n'est que quelques heures plus tard que Mariama Cissé a finalement compris qu'il s'agissait d'une condamnation pour harcèlement moral et non sexuel. Au début déçue, elle vit aujourd'hui ce procès comme une victoire. Nous la retrouvons 2 mois plus tard. En quelques semaines, Mariama Cissé a changé de dimension. Sa force et sa combativité ont impressionné l'opinion publique ivoirienne, à tel point que l'athlète est devenue une personnalité dans le pays. Invitée sur les plateaux télé, reconnue dans la rue, elle est devenue une figure de la lutte contre le harcèlement dans le sport.
Qu'il purge sa peine, et puis voilà, tout le monde est OK. Donc je le vois comme une victoire, parce que c'est pas évident même que... En plus, juger ce genre d'affaires et que ça arrive jusqu'au bout. Donc c'est une victoire, c'est un début. Ça va donner aussi la force à plusieurs femmes de pouvoir s'exprimer.
En avril, la jeune femme a organisé un événement sur le leadership féminin à Grand Bassam, sa ville d'origine. Ce jour-là, nous la retrouvons au marché d'Adjamé pour acheter les tenues de la cérémonie.
Je suis en train de voir les t-shirts.
Je veux choisir.
Marie Massissé veut aujourd'hui être un modèle pour toutes les athlètes et plus largement les femmes de son pays.
Je cherche beaucoup à les encourager. C'est la peur qui fait qu'on ne parle pas. Mais c'est mieux de parler. Et si on ne parle pas, on ne sait pas en fait quelle sera la récompense, quel sera le retour. Tant que tu n'essaies pas, tu peux pas juger directement. Oh, je connais personne. Si je dépose là, ça va pas aller loin et tout. Moi, je ne connaissais personne. Madame Aka Angui, elle, l'avocate a décidé de m'accompagner. Donc, quand tu entreprends, je pense qu'il y a les moyens qui viennent après. J'ai un réel sentiment d'avoir un rôle à jouer dans ce problème-là surtout. Parce que c'est quelque chose qui perdure. Tant que je suis, j'ai la capacité, je le ferai. Parce que je n'ai pas envie que d'autres femmes puissent vivre la même chose. C'est tellement terrible.
Et la championne semble s'être bien remise de cette épreuve judiciaire. Elle a remporté le 27 avril dernier une médaille de bronze lors d'une compétition continentale organisée à Addis Abeba, en Éthiopie. Grâce à Marie Massissé, la parole s'est un peu libérée dans le taekwondo ivoirien. Son amie Audrey Akachia, 25 ans, a également témoigné lors de ce procès. Lors de la première audience en novembre dernier, elle avait expliqué avoir subi en 2018 des attouchements et du harcèlement de la part du même entraîneur lors d'une compétition en Corée du Sud. À la sortie de cette audience, elle avait fondu en larmes en racontant aux journalistes son histoire.
Moi, ce que j'ai eu à vivre, quand nous sommes arrivés en Corée, à Chincheon, c'est là qu'il y a eu des attouchements. Il y a eu des attouchements quand je suis partie m'entraîner en salle. Après ça, il me disait de venir dans sa chambre et tout. Chose que je n'ai pas voulu parce que mine de rien, j'étais encore jeune. Il faisait tout pour me rabaisser, il faisait tout. Je pleurais même, à tout moment je partais, je pleurais. J'avais des esprits suicidaires même parce que je n'arrivais pas à supporter ça. Et le jour où nous sommes arrivés à Abidjan un mercredi à 14h. Je ne suis même pas allée à la maison. J'ai pris ma route direction l'entraînement. Et dès que je suis partie, j'ai vu mon maître. En même temps, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit « qu'est-ce qui se passe ?» J'ai tout expliqué. Il dit « mais sincèrement, moi, à compter d'aujourd'hui, moi, Audrey, le taekwondo de moi, c'est fini. » J'ai plus la force de continuer en vrai. J'ai plus cette force.
Mais cette parole fut libératrice. Depuis ce procès, Audrey a repris le taekwondo. Nous la retrouvons sur un vélo d'entraînement dans la salle de sport de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. La jeune femme vient de reprendre l'entraînement aux côtés de son amie, Maria Massissé.
Je vois en train de reprendre, c'est... ça me fait énormément de bien. Il y a un énorme challenge qui est devant moi. J'avais plus l'envie de reprendre en fait. Totalement dégoûtée du taekwondo.
Là récemment, ça a été quoi le déclic pour reprendre ?
En fait, le déclic c'est la détermination de Mariama. Après, tout ce qu'elle a fait n'a pas relâché en vrai. Elle est allée jusqu'au procès et même gagner le procès. Après ça, je me dis mais attends, pourquoi pas reprendre en fait ? Parce que on peut dire ma motivation vient d'elle.
Est-ce que c'est le fait aussi d'avoir pu témoigner face au tribunal ?
Oui, d'avoir pu témoigner. De s'ouvrir pendant plusieurs années, j'étais dans ma coquille, je ne pouvais pas parler. Et là, de m'ouvrir et dire pourquoi j'ai disparu du taekwondo. Et maintenant, les gens ont compris le pourquoi je ne suis plus là. En fait, ça m'a fait énormément du bien.
Et la reprise voilà, voilà. Sur les tatamis est difficile.
Voilà, bien, bien, bien. Garde la même distance.
Mais désormais fière de porter son kimono aux côtés des meilleurs athlètes du pays, elle ne compte plus s'arrêter en chemin.
En vrai, de vrai, c'est une nouvelle Audrey. Je me sens plus libérée, je me sens à l'aise, je suis contente, je suis entourée de bonnes personnes, des personnes qui me soutiennent. Je ne peux qu'être heureuse en fait. Et il n'y a rien de mieux que d'être heureuse dans un sport pour pouvoir évoluer. J'ai toujours cette soif-là de gagner des médailles et même pourquoi pas remporter des médailles internationales.
Les objectifs sont grands alors ?
Très, 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 très grands. J'ai de grands objectifs et puis j'ai de grands rêves en fait.
Allez Audrey, on s'arrête pas !
Audrey Akachia et Maria Massissé sont toutes les deux entraînées par Franck Laté-Lawson. Après quelques années en Europe et au Canada, ce coach ivoirien a décidé de créer son club d'entraînement Elvolution. Il milite pour plus de respect des athlètes et d'inclusion dans le taekwondo et se réjouit de voir la parole doucement se libérer.
Nous sommes bien contents de revoir Audrey. Elle avait arrêté les entraînements. Donc la revoir aujourd'hui, remotivée en tant qu'entraîneur, pour moi c'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner les athlètes. Et surtout que c'était quand même... une athlète de l'équipe nationale, une très bonne athlète. Donc le défi aujourd'hui, c'est de la remettre en jambes pour qu'elle puisse revenir à ses performances, ses meilleures performances. Donc c'est toujours un défi et un plaisir de pouvoir l'accompagner dans ce sens-là. Ça montre quand même que dans la vie, on peut traverser des périodes difficiles, mais avec de la résilience, on peut toujours se relever. Mais c'est entièrement psychologique. Le physique, ça se travaille. Le physique, on le perd. on le retrouve, mais le psychologique, c'est beaucoup plus dur. Donc, pour moi, dès lors que psychologiquement, elle est bien dans sa peau, elle est prête à refaire les efforts nécessaires pour atteindre son meilleur niveau, elle y arrivera.
Elle aussi a retrouvé goût au taekwondo. Cynthia Krakbe, une des meilleures taekwondoïstes de sa génération dans les années 2012-2013, dit avoir subi du harcèlement moral de la part de ce même entraîneur.
C'est lorsqu'il est arrivé en tant qu'entraîneur à l'équipe nationale en 2013, c'est là que ma vie a basculé, ma carrière sportive a basculé et il m'a retiré de l'équipe nationale. Donc j'ai été forcée d'arrêter. Dans les coulisses, on avait des grandes sœurs qui se plaignaient de sa manière de faire. Il avait des comportements qui n'étaient pas commodes pour les filles. Donc je ne connais pas ses raisons personnellement, mais en tout cas j'ai fait partie de celles qu'il a retirées de l'équipe nationale.
Tu dirais que c'était du harcèlement moral ou sexuel, ce que tu as vécu ?
Je vais dire moral et puis abus de pouvoir, parce qu'il a utilisé son pouvoir pour me retirer de l'équipe nationale injustement. Alors que j'avais ma place.
Est-ce que toi aussi il te rabaissait ? Est-ce qu'il était dur avec toi ?
Il te met dans l'état d'esprit qu'il va faire de toi une championne. Donc en tant que jeune fille pratiquante qui a envie aussi de progresser et tout, tu te dis que bon, voilà le coach qui va faire de toi une championne. Donc il y a une confiance qui naît. J'ai juste refusé de lui demander pardon et c'est là où il m'a écartée. Parce qu'on dirait qu'il a compris que sa manipulation ne peut pas s'appliquer à moi, en fait.
C'était impossible de porter plainte à l'époque ?
À vrai dire, ça ne m'est pas venu à l'esprit de porter plainte. Parce que j'en ai parlé à mon père, qui est mon entraîneur à cette époque. Mais il n'a pas réagi, il ne m'a pas donné de solution, en fait. Donc, on a laissé ça comme ça.
Et aujourd'hui, c'est quoi le sentiment ? C'est le regret ? C'est la tristesse ? C'est la colère ?
Écoutez, j'ai passé toutes ces étapes-là. Hein. Colère, tristesse, regret, c'est fini. J'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé. Pas oublié, mais j'ai laissé tomber tout, au fait. J'ai lâché prise et je me suis donné une autre direction.
Un comportement qui l'a, elle aussi, dégoûtée du taekwondo. Ce coach aurait détruit de nombreuses carrières, dont celles d'autres athlètes, qui n'ont pas encore trouvé la force d'en parler. Si la parole se libère, certaines ont encore peur de cet entraîneur longtemps décrit comme très puissant et influent.
Donc je disais, l'objectif de l'entraînement, aujourd'hui, vous allez faire 800 mètres.
Mais Cynthia Krakbe est aujourd'hui coach de taekwondo à l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports à Abidjan. Ce jour-là, 4 de ses athlètes travaillent le cardio sur la piste de l'Institut. Après une telle expérience en tant qu'athlète, elle envisage forcément son métier avec du recul.
C'est un sport que j'aime. Et je me dis que j'ai quelque chose que je peux partager aux plus jeunes. Donc je veux aussi faire des champions, apporter mon aide, mon soutien, mon expérience, faire les choses en tout cas en fonction de ce que j'ai vécu. Je veux que les jeunes apprennent d'une meilleure des manières, surtout les femmes, parce qu'il y a eu tellement de frustrations qu'elles ont vécues dans le sport. À ma manière, je veux encourager ces jeunes-là qui croient au sport, qui croient que le sport peut changer leur vie.
À vos marques. Prêt ? Partez.
Face à toutes ces histoires, les regards se tournent forcément vers la Fédération ivoirienne de taekwondo. Lorsque Mariama Cissé a porté plainte en décembre 2023, l'instance avait rapidement réagi en suspendant l'entraîneur et le DTN, mais par la suite, son silence a interrogé. L'athlète a été suivi par les organisations féministes ivoiriennes, mais pas par la Fédération. Jean-Marc Yassé, le président de l'instance, avait été interrogé par Brut et RFI peu avant un procès dont il ne connaissait même pas la date. Il avait alors choqué les internautes par sa désinvolture.
Vous vous rendez compte que c'est difficile d'être aujourd'hui une jeune femme de haut niveau dans le monde du taekwondo ?
Mais qu'est-ce qui vous dit pas que d'être un jeune homme aussi, c'est difficile ? C'est aussi difficile. Les jeunes hommes sont aussi harcelés que les femmes. Donc vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus qui est harcelé. On a vu, malheureusement pour nous, ce qui est sorti ici, certains prêtres, où on a dit des jeunes garçons avaient été harcelés. Donc la pédophilie, ce n'est pas seulement sur les jeunes femmes. Les jeunes garçons sont touchés aussi, malheureusement. Donc à nous de pouvoir prendre les mesures, c'est ces mesures que je suis en train de prendre avec tout le bureau pour pouvoir cesser ce genre d'agissement.
Durant cette période de crise au sein de la Fédération, le président assure qu'il va mettre en place des programmes de sensibilisation contre le harcèlement.
Rien n'est tard. Quand je suis venu, je ne savais pas qu'il allait y avoir un harcèlement. Donc je prends les mesures. Si on me laisse travailler correctement, rassurez-vous, je prendrai les mesures en temps et en heure.
Interrogé après un conseil des ministres, Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, a soutenu la libération de la parole des sportifs sans pour autant proposer de programmes concrets pour aider les athlètes.
Nous avons pris l'engagement d'une tolérance zéro, des violences basées sur le genre. Il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait, il faut juste encourager les femmes, les jeunes filles à parler, à dénoncer.
Nous retrouvons l'avocate Francine Akangui dans son cabinet à Abidjan. Celle qui est aussi présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire a rejoint Mariama Cissé en cours de procès. Mais elle a joué un rôle important dans le suivi du dossier de l'athlète. Depuis ce procès, elle dit recevoir des appels de jeunes sportifs d'autres fédérations. Aucune d'entre elles ne souhaitera toutefois témoigner à notre micro.
Plusieurs personnes m'ont contacté pour me relater des faits similaires, tant dans le taekwondo que dans d'autres domaines sportifs. Dans le domaine du taekwondo, contre toujours le même entraîneur. Donc vous voyez que ça a libéré la parole et ça a permis aussi pour d'autres cas, pas forcément de harcèlement, mais des cas de violence, de victimes de cas de violence, de venir me voir pour voir comment on pouvait les défendre, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leur cas.
Selon vous, combien de personnes ont été victimes de cet entraîneur ?
De ce que je sais déjà, c'est plus d'une dizaine de jeunes filles et des cas en plus qui remontent il y a au moins 10 ans. Donc c'est vraiment un prédateur en fait. Tous ces contacts, tous ces appels que j'ai eus, c'est le problème de la preuve. Les personnes n'ont pas vraiment de preuve. Mariama, on a eu de la chance, elle a conservé les messages WhatsApp, mais pour éviter qu'on soit débouté, parce que là, ce serait pire, on aurait un effet inverse, il faut que les dossiers soient bien montés. Pour ça, il faut qu'on ait des preuves. Et jusqu'à présent, je n'ai malheureusement pas eu de dossier dans lesquels il y a suffisamment de preuves pour pouvoir porter l'affaire à la justice.
Selon elle, il y aura un avant et un après procès Tadju Attada, car c'est toute la société qui est concernée.
Ce procès-là a montré que donc on peut être condamné pour de tels faits, et donc ça fait que les gens font un peu attention. J'espère qu'il y aura d'autres condamnations, parce que c'est malheureusement un peu trop fréquent. Ça commence à l'école. Aujourd'hui, vous voyez, on parle beaucoup des cas de grossesse scolaire. Vous voyez, donc c'est des cas, c'est des conséquences de harcèlement sexuel. Donc je pense que ça va faire effet boule de neige et ça va surtout donner à réfléchir à ces personnes-là.
La force de ce procès, c'est que c'était un entraîneur national, très puissant, très influent et qui en fait semblait un peu indéboulonnable.
Tout à fait.
Maître Panfolié Koulibaly, l'avocat de Tadju Attada, conteste la description qui est faite de son client. Celle d'un homme qui aurait profité de sa position d'entraîneur.
Quand vous dites que M. Tadju aurait du pouvoir, il a été, c'est un poste nominatif. Si tel est que M. Tadju était quelqu'un d'invivable, quelqu'un qui empêchait la fédération d'évoluer, je pense que le président aurait pris ses responsabilités. Il n'en est pas le cas.
Dans cette histoire, Mariama Cissé et les autres athlètes ont pu compter sur un soutien de taille, la taekwondoïste ivoirienne Ruth Bagby. La double championne du monde sollicite actuellement les organisations internationales et l'État ivoirien pour créer une structure de protection des victimes comme cela existe en Europe et au Canada. La voici à l'entraînement dans une salle de sport d'Abidjan. Ce jour-là, pas de casque ou de plastron de compétition, elle travaille sa condition physique en jogging et nous explique les objectifs de sa structure.
C'est un, de recueillir les témoignages, deux, assister les victimes, trois, enquêter et sanctionner, en quatre, prévenir les abus et les harcèlements à travers des ateliers de formation. Tout cela dans le but d'assurer un environnement sain, sécuritaire et inclusif pour tous les athlètes ivoiriens.
La championne ivoirienne ne souhaite qu'une chose, que les athlètes puissent évoluer sereinement et atteindre leurs objectifs comme elle, qui dit avoir eu la chance de n'avoir jamais été harcelée ou agressée. Pour autant, malgré le procès et cette initiative, l'avocate Francine Akangui rappelle que le chemin est encore long.
Les femmes sont vraiment victimes de violences, et tant les violences physiques, c'est vrai que souvent les violences physiques font beaucoup plus parler d'elles, mais malheureusement le harcèlement qui est plus insidieux, presque plus important même que les violences physiques. Vous voyez, parce que c'est à tous les niveaux, c'est pour trouver du travail, c'est quand on est étudiante, c'est quand on est à l'école. Et les femmes sont dans une insécurité morale, psychologique, qui aujourd'hui en fait sort au grand jour grâce à ce genre de procès qui sont médiatisés et grâce à nos actions que nous menons sur le terrain de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation des textes.
Si Mariama Cissé semble avoir déjà tourné la page de cette histoire difficile, un nouvel épisode judiciaire devrait bientôt refaire parler de l'affaire. L'ancien entraîneur Tadju Attada a fait appel de sa condamnation.
On retrouve donc Youen Gourlet après la diffusion de ce reportage. Youen, en ligne d'Abidjan, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous signez ce sujet et c'est un procès, je crois, que vous avez suivi de manière très singulière.
Oui, on peut le dire. En fait, j'avais entendu parler de la plainte de Mariama Cissé l'année dernière. Et lorsqu'une deuxième plainte a été déposée contre un autre entraîneur de l'équipe nationale en septembre dernier, j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans ce sport si populaire en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré Mariama Cissé, elle m'a confié son histoire et m'a dit que la fédération ne l'accompagnait plus du tout dans ses démarches. Un procès devait avoir lieu, mais on ne savait pas quand. Même le président de la fédération n'avait pas la réponse. On est finalement allé ensemble au tribunal pour avoir des informations. On est passé de bureau en bureau avant d'avoir la date. Et en fait, c'était deux semaines plus tard. Mariama Cissé n'avait pas d'avocat, elle avait juste le soutien d'une organisation féministe, la Ligue ivoirienne des droits des femmes.
Une fois le procès lancé, a-t-il été bien suivi par les médias ?
Alors, il a été suivi par les médias internationaux, mais lors des audiences, il n'y avait pas de journaliste ivoirien. C'était assez surprenant, comme si les médias ici ne croyaient pas à la condamnation d'un homme puissant du sport ivoirien.
Et une fois condamné, est-ce que le traitement des médias ivoiriens a changé ?
Oui, complètement. La condamnation a surpris beaucoup de monde et les médias qui n'étaient pas venus au tribunal se sont mis à en parler, à en débattre sur les plateaux télé. Mariama Cissé a même été invitée dans plusieurs émissions et les réactions étaient très positives.
Alors justement, parlons des réactions de la population en Côte d'Ivoire. Comment cette condamnation a-t-elle été perçue dans le pays ?
Alors, je vis en Côte d'Ivoire depuis 7 ans et j'ai parfois vu des messages assez dégradants envers les femmes victimes de violences ces dernières années. Mais pour cette histoire, j'ai été assez surpris. Les réactions étaient globalement positives. Mariama Cissé a eu beaucoup de soutien. On lui a envoyé beaucoup de force durant le procès.
Alors bien sûr, il y a une autre facette. Est-ce qu'on sait si les hommes ont réagi différemment ?
Alors il y a toujours quelques commentaires mal placés sur les réseaux sociaux, certains ayant du mal à faire la différence entre la drague et le harcèlement. Mais là aussi, j'ai été surpris. Beaucoup d'hommes l'ont encouragé et ont critiqué l'entraîneur. Je me suis dit, ah, les choses sont en train de changer et c'est tant mieux.
Durant votre enquête, vous avez pu discuter avec d'autres femmes victimes de cet entraîneur. Pourquoi n'ont-elles pas parlé ?
Ces anciennes athlètes de Tadjou Atada ont refait leur vie et ne veulent plus entendre ni parler de lui, ni du taekwondo. Elles sont encore très marquées par ce qu'il a pu leur faire. L'une d'entre elles a failli témoigner, mais le trauma est encore trop présent. Malgré la condamnation, elles le pensent encore très puissant et ont peur des représailles.
Vous dites à la fin de ce reportage que l'entraîneur a fait appel de la décision. Peut-on penser qu'il ne sera finalement pas reconnu coupable ?
Difficile à dire pour le moment, mais rappelons quand même que le procureur avait requis un an de prison ferme pour harcèlement sexuel, ce qui était déjà inédit. L'avocate Francine Akangui, qui a accompagné gratuitement Mariama Cissé, regrette de ne pas avoir pu la suivre plus tôt. Selon elle, elle aurait réussi à le condamner pour harcèlement sexuel. Et c'est sans doute ce qu'elle va essayer de faire lors du prochain procès.
Vous estimez globalement que Mariama Cissé a quand même quelque part tourné la page. Elle a récemment gagné une médaille de bronze lors d'une compétition continentale. Comment va-t-elle ?
Elle va très bien. Elle s'entraîne beaucoup, développe un business de jus de fruits à côté. Je suis plutôt impressionné par sa force et son abnégation. Elle a eu la chance d'être très soutenue par sa famille et ses amis aussi. L'avoir remporté des combats sur les tatamis est la meilleure des réponses. Elle a ouvert la voie aux autres femmes. Espérons maintenant que la société ivoirienne encourage un peu plus les femmes à parler.
Rappelons que l'affaire n'est pas finie. Bien sûr, nous suivrons le procès Tadjou Atada en appel. Youen Gourlet, merci.
Merci.
Côte d'Ivoire toujours, la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo s'est déroulée du 15 au 20 avril dernier à Abidjan et Daloa. 17 ans et de sa création par les membres du groupe Magic System, on est passé à un événement de grande notoriété. C'est gratuit, ça danse beaucoup, ça marche fort et le FEMEA porte et défend aussi des valeurs de partage et d'équité, cherche en quelque sorte à faire bouger les lignes. Comme le raconte Salif Traoré, alias Assalfo, le commissaire général du festival.
Organiser un festival comme le FEMUA aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons tous, c'est montrer que la musique, au-delà d'être festive, peut aussi apporter sa contribution pour le développement de nos pays, de nos continents. Et pour une fois, les Ivoiriens se retrouvent. On invite un pays d'honneur qui est la Guinée, qui vient aussi avec sa culture, sa diversité et l'un dans l'autre, ça fait du FEMUA aussi un festival d'intégration.
FEMUA, quand un festival voit plus loin que la musique, un grand reportage de Guillaume Thibault.
Bonsoir, vous allez bien ? Heureux de vous retrouver.
Comme un aimant, le FEMUA attire. au cœur de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, les enceintes de l'immense scène grondent, la foule se masse, la danse devient rêve. Des nuages mélangés de poussière et de chaleur des corps s'élèvent au-dessus d'un public qui réunit toutes les générations. Hortense et ses amis s'ambiancent avec un seul mot d'ordre, le FEMUA, ça ne se rate pas.
Quand tu es au FEMUA, là, vraiment il y a l'ambiance. Même si tu n'as pas envie de danser, tu vas danser. Tu as envie de t'amuser, il y a dit ton sang est chaud. Les artistes sont là, toi tu es là et puis en plus c'est gratuit.
Vous, vous attendez quel artiste?
José, c'est une artiste vraiment, elle chante les sons vraiment qui donnent conseil aux jeunes filles. Elle chante très bien et je l'aime.
Quel genre de diplôme tu veux avoir, eh, oh bébé? C'est quelle étude qui finit pas, si tu veux pas faut me libérer.
Roomba, chauffe!
Vedette ivoirienne, José se faufile dans cette fourmilière. À 35 ans, Priscille José Gnacrou a déjà une sacrée carrière et des chansons devenues des hymnes. Désormais porte-voix des femmes, la reine de l'afrozouk aime éduquer, conseiller et savoure d'être l'une des têtes d'affiche du FEMUA 17.
C'est une scène internationale, hein, donc c'est toujours un plaisir pour nous de nous produire pour que d'autres cultures puissent voir un peu ce qu'on a en Côte d'Ivoire.
C'est particulier de jouer au pays.
Surtout une scène comme le FEMUA, oui, c'est particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme le FEMUA. C'est le plus grand festival qui réunit toutes les cultures en Afrique francophone.
Roumba Asakota, Asikuma, Asakota, Asakota, Asikuma. Merci.
Pour comprendre la genèse de cette histoire, de ce festival hors du commun, il faut chercher le tambour sacré. Quitter le site de l'INJS, passer sous le pont HKB et poser les pieds au cœur d'un lieu devenu mythique, Anoumabo, village où est né le groupe Magic System.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui.
Vous êtes monsieur?
Monsieur quoi, Morounou Moïse.
Moïse, où est-ce qu'on est ici?
Nous sommes à Anoumabo, la rue principale du village.
Qu'est-ce que ça représente Magic System? Qu'est-ce que ça représente cette longue histoire du FEMUA pour ce quartier? J'imagine que c'est une fierté.
Oui, effectivement. Il faut dire que Magic System, c'était les jeunes du village qui ont commencé avec les tambours qu'on appelait Woyo. Et du coup, bon, la chance a souri à ces jeunes. Et voilà que ces jeunes, maintenant, font vraiment la fierté de ce village. Et grâce à eux, le village est connu un peu partout dans le monde. Donc vraiment, ils sont à féliciter.
Merci beaucoup, Moïse.
Je vous en prie.
Cette solidarité est concrète. Dès les premières éditions, l'équipe du FEMUA a utilisé la musique pour bâtir, notamment des écoles, 14 aujourd'hui dans tout le pays, une maternité, un centre d'accueil pour les orphelins. Et le village reste le socle pour faire aboutir ses projets en s'appuyant notamment sur la communauté et la tradition. Nanji Vincent De Paul est directeur de cabinet du chef coutumier d'Anoumabo.
Ça fait du bien, c'est de l'enthousiasme. Ça montre qu'Anoumabo, c'est la solidarité, c'est tout ce qui est beau à Anoumabo. Et ça montre que nous sommes un, nous avons une seule religion. Et notre religion à Anoumabo, c'est l'amour.
Y'a rien qui achète, ton argent suffit pas. C'est sur ma montre Rolex qu'ils vont lire. Assini est loin quand y'a pas bon Dieu. On se fatigue plus pour draguer quand on a tout le lait.
Cet ADN du FEMUA, cette défense de valeurs fondamentales que sont l'entraide, le partage ou encore le respect, se fait entendre sur les scènes du festival, en programmant notamment les nouvelles figures des musiques urbaines, comme Conan Angelo Wilfried, alias Lil Jay, un enfant de la populaire commune de Bingerville, qui prône l'héritage des grandes voix du pays, comme celle de Tiken Jaffa Coli.
Ouf, Tiken, légende en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. On voit ce qu'il fait aujourd'hui encore. Et moi, c'est des carrières comme ça que j'ai envie de suivre. Des morceaux qui impactent ouvrez les frontières, par exemple. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Où il parle de laissez-nous aller aussi, essayer de monnayer nos talents en Europe, revenir. Parce qu'en vrai, le monde, il est un. Donc, il faut ouvrir les frontières. Et moi, ma musique, je parle beaucoup de la femme. Et j'essaie aussi de chanter beaucoup aussi d'espoir. Moi, je viens d'un quartier populaire, quoi. C'est-à-dire, là-bas, réussir à gagner sa vie, c'est un mythe, quoi. Bien, j'ai vu le quartier Blachon. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'étoiles là-bas. Mais on n'a pas cette grande opportunité, vous voyez. Et moi, quand l'opportunité de la musique est venue à moi, où je pouvais monnayer mon talent, on me retrouve aujourd'hui au FEMUA, qui aurait cru, c'est quelque chose de fort. Donc, dans mes chansons, je n'hésite pas à chaque fois de motiver, de dire aux gens que tout est possible si tu crois en tes rêves.
Alors que Lil J fusionne sur scène avec le public du FEMUA, près de 40 000 personnes chaque jour, le site du festival grouille de vie. Notamment le village, où il est possible de donner son sang, d'apprendre à bien trier ses déchets, ou encore de déguster brochettes et boissons en mode VIP. Et puis, au cœur de la foule, souriante, Mariam et sa collègue, agente du ministère de la Jeunesse, jouent leur partition, sensibiliser les jeunes générations aux problématiques de violence et de maladies sexuellement transmissibles.
On profite de cette lucarne pour venir sensibiliser les jeunes, faire des batailles de préservatifs, et puis bon, leur rappeler que certes on est venu pour s'amuser, mais en même temps il ne faut pas avoir de comportement déviant, il faut faire très attention.
Quel comportement déviant?
Oh, les comportements arrivent, ce sont bon, les racontes d'une nuit, à la va-vite, et puis tu sois avec le VIH, ça peut bouger toute une vie. Faut pas être euphorique.
Au petit matin, alors que le soleil se lève sur la lagune, la musique du FEMUA se met en pause. Après une nuit de fête, les jeunes filent retrouver leur lit pour quelques heures de repos avant de revenir danser. Mais dans le même temps, de longues files indiennes se créent devant d'étranges machines.
S'il vous plaît, au suivant.
Comment s'appelle cette machine?
L'Adaptica Calidos.
Vous avez déjà fait opérer des yeux?
La personne met le visage et puis les yeux, lui donne les résultats.
Vous avez déjà porté des lunettes?
Je suis Nathalie Guilavogui. Je suis au programme national de la santé oculaire. Au cœur du FEMUA, nous voulions être en phase avec le thème même du FEMUA, qui est civisme et sécurité routière. Et qui dit sécurité routière dit bonne vision. Et donc c'est pour cela que nous avons proposé ce package. Faire tout ce circuit-là pourrait revenir autour d'au moins 300 000 Français CFA. Et c'est offert, tout est offert, jusqu'aux paires de lunettes, tout est offert. Notre vision, c'est qu'aucun Ivoirien ne doit devenir aveugle, faute de moyens.
Merci beaucoup, je vous laisse travailler. Je vais aller voir... Monsieur, je peux vous embêter quelques minutes? Comment vous vous appelez?
C'est Monsieur Dembélé.
Qu'est-ce que vous pensez de cette opération?
C'est une très belle initiative parce que permettre à ceux qui n'ont pas la chance d'aller consulter, de le faire sur place. Comme elle a dit tout à l'heure, généralement pour aller voir un ophtalmologue, ça demande beaucoup de temps et d'argent bien sûr.
C'est vraiment la force du FEMUA. Certes il y a la musique, certes il y a l'amusement, mais il y a aussi des actions sociales concrètes pour les populations.
Oui, vraiment, au-delà même de tout ce qui est festif, c'est à féliciter, on remercie le FEMUA, on remercie Magic System pour cette initiative. C'est vraiment quelque chose de noble.
Bonne consultation.
Merci bien.
Un thé, un mi. Oh, allez, Nyanka. Nyanka, dis-moi toi, Nyanka, dis-moi,
après la santé mentale chez les jeunes en 2024, c'est donc le thème de la sécurité routière qui a été sélectionné pour ce FEMUA 17. Un choix stratégique et judicieux en cette année d'élection présidentielle, car aucun acteur politique ne peut en effet le mettre de côté. Et cette priorité nationale a été évoquée par le ministre des Transports lors de la cérémonie d'ouverture du festival, en présence du vice-président Thiemo Kommelié-Koné, parrain de cette édition. Amadou Koné a appelé à la mobilisation générale en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région.
En Afrique et dans notre pays, les accidents de la route sont la première cause des décès des 5 à 29 ans. La sécurité routière représente un défi quotidien et un impératif absolu pour le développement et la cohésion de notre nation. Bon festival à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Le FEMUA joue donc ce rôle de catalyseur de la vie politique nationale et va plus loin. En invitant comme chaque année un pays, la Guinée pour cette 17e édition, le festival déploie ses réseaux dans la diplomatie sous-régionale. Artistes, acteurs économiques et politiques, 130 personnes composaient la délégation guinéenne menée par le ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla.
On va plus loin que la musique. Quel est le secteur qui a ce potentiel, cette possibilité, cette capacité à rapprocher des pays frères qui ont quelques petits malentendus sur le plan politique, si ce n'est la culture? C'est un langage universel. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire et le commissariat général du FEMUA s'en rendent compte, mais ils réussissent à réunir autour de la table des personnes, des pays qui ont souvent du mal à se parler sous d'autres cieux. Parce que par la culture, on peut facilement passer des messages, on peut facilement rapprocher les peuples. C'est un carrefour diplomatique pour nous, c'est aussi une tribune pour dire au monde entier que la Guinée sur la scène culturelle est de retour.
Au FEMUA, cette ambition de faire rayonner la Guinée a donc eu deux volets. Le premier, politique, visuel, sur le site du festival, avec ce slogan « Simandou 2040 », nom du programme de développement annoncé pour le pays. Le second, culturel, avec des concerts, des grandes voix de la Guinée, notamment celle de la griotte, la fille de Mori Kanté, Manamba Kanté.
Amandine. Kuma mandinye kuma imoro lambele bolila ila ni moro menna kwiteri wole igundo be fudu fudu la ikona fateteri adulu labutu marasila.
La musique permet aujourd'hui de recoudre les tissus déjà qui sont déchirés et tout, et on a beaucoup d'exemples palpables, même chez nous. Traditionnellement, dans le mandingue profond, quand il y avait des querelles, des problèmes, il fallait faire appel aux griots. La musique vient de là. Donc, il y a eu des tensions entre ces deux pays. Donc, aujourd'hui, la musique renforce vraiment ce tissu, ces liens diplomatiques entre ces deux pays. Grâce à cette musique, on est là et on se retrouve là, tout va bien. Donc, la musique n'a pas de frontières.
Yo Jalia, Alaleka Jaliada. Ejelia alaleka jaliada auzu billahi.
Après une semaine de fêtes sauce FEMUA, Abidjan est fatigué. Mais les vedettes et les équipes du festival n'en ont pas terminé. Il est 7h du matin ce dimanche 20 avril 2025, lorsqu'un convoi de 4x4, d'autocars et de minibus VIP quitte l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. C'est une autre tradition du festival, la décentralisation chaque année dans une ville de Côte d'Ivoire. Pour cette 17e édition, 7 heures de route via Yamoussoukro permettent d'atteindre Daloa et ses 400 000 habitants. À la tête de cette caravane hors du commun, Salif Traoré, à Salfo, le commissaire général du FEMUA.
C'est une vision aussi de vouloir rapprocher le FEMUA des populations de l'intérieur du pays. Venir dans une ville comme Daloa, c'est faire vivre toute l'activité qu'il y a autour. Les hôtels, les restaurants, les taxis qui roulent toute la nuit, le petit commerce à côté qui marche. Nous sommes à Daloa, vous avez vu, hein, tout le monde est motivé, tous les jeunes sont excités, et toute la ville qui bouge, c'est le but.
Ça, c'est la vision économique développement. Et cette vision, c'est aussi de passer un message, de dire on peut travailler dans sa région plutôt qu'avoir l'envie de quitter.
L'exode est quelque chose aussi qui a tué nos villes communes, parce que tout le monde croyait que toute la richesse, toute la réussite, toute la fortune se trouve à Abidjan. Donc les gens ont envie de déserter les villes de l'intérieur pour venir à Abidjan. Donc il faut créer des activités de proximité, il faut leur amener ce qu'ils attendent. Il a dit oui, on peut rester chez nous et puis vivre les mêmes émotions que vivent les jeunes d'Abidjan.
Visiblement heureux de participer à cette décentralisation à Daloa, un certain Nyakuri Oku, né en 1980 à Abidjan, le garçon a même grandi dans la région, son nom de scène, Caris.
C'est très important parce que je suis d'ici, moi, je suis né ici. Jusqu'en 83, j'ai vécu au village, non loin d'ici, à Gagnoua, donc ouais, c'est très important pour moi. Là, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est comme si je faisais un concert devant ma famille. Ça va bien se passer. Il faut croire en ses rêves.
À 17h, le stade de Daloa est déjà plein et tous les chanteurs que compte la ville se sont donné rendez-vous pour cette soirée FEMUA.
Éduquons les enfants, éduquons les enfants pour l'avenir du pays, éduquons les enfants pour l'avenir de l'Afrique.
Ça fait quoi de voir Daloa en fait?
Ça veut dire que la ville est considérée, que la ville en voie de développement, parce que ça fait des années qu'on ne voit pas ce genre de choses ici. Voir le FEMUA ici à Daloa aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Voir que nos artistes qu'on kiffe sont là, vraiment c'est waouh, vraiment bravo au Magic System.
Ça ressemble aux Ivoiriens, toujours plein d'amour, plein de joie. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup.
Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait énormément plaisir.
Vous attendez qui?
Imra. Ouais, c'est carré quoi.
De tes mains, appelle les champagne. Les deux comme le Yolambo. T'as mangé les deux encore. Allumez la concu et passez les vents. Les points là déjà, mais j'y n'ai pas les dents.
On s'est con.
Ciao, alors qu'à la vie.
Les points qu'à la vie.
Autant iconique et puissant sur scène que discret en coulisses, Imra, maître de la drill ivoire, a su faire bouillir le stade de Daloa et l'INJS d'Abidjan. C'est la révélation de cette édition du FEMUA, un festival ambitieux qui ose mélanger les générations, faire entendre de nombreuses voix engagées, comme ce talent brut qui a joué le même soir qu'une immense artiste, tête d'affiche elle aussi, Angélique Kidjo.
Inanjole a joloko, inanjole a jolore, ogoroe, inanjole a joloko.
Marraine de l'UNICEF, toujours là lorsqu'un combat est à mener pour les plus démunis, Angélique Kidjo est à l'image du FEMUA, car la chanteuse et ce festival défendent des principes communs comme l'unité et revendiquent pour tous le respect des libertés.
Il n'y a pas de raison pour qu'on puisse mettre un être humain en prison parce qu'il a eu la liberté de dire ce qu'il pensait. Et tant qu'on n'aura pas fait la lumière sur tous les prisonniers politiques, tous les citoyens dont on a donné leur droit d'exister, on n'aura pas de société et il n'y aura pas la paix.
Le salut à la foule d'Angélique Kidjo au FEMUA. Vous étiez là, Guillaume Thibault, on vous retrouve, bonjour.
Bonjour.
Le FEMUA, donc à Abidjan, met en avant les musiques urbaines. Alors finalement, qu'est-ce qui est particulier? Pourquoi ces musiques sont-elles innovantes?
Alors la Côte d'Ivoire et sa capitale économique, Abidjan, ont toujours été à la pointe, un lieu de création de nouveaux sons, notamment ces dernières années avec le rap, que l'on nomme d'ailleurs le rap ivoire. Les nouvelles générations ont amené leurs textes, on peut citer Didi B, des paroles souvent en ouchi, l'argot de la Côte d'Ivoire, mais aussi leur son, leur beatmaker, littéralement les fabricants de rythme. Tamsir est devenu une icône qui travaille avec toute cette scène rap. On l'entend aussi dans le reportage, Imra est en train de créer une nouvelle vague en jouant lui de la drill, cette musique, ces sons plus dur, plus agressif, avec des basses puissantes, une voix rauque. On parle là aussi de drill ivoire et Abidjan est donc souvent un point de départ de tous ces sons qui rayonnent ensuite dans toute la sous-région, voire plus loin, comme l'afrobeat est né au Nigeria, la Côte d'Ivoire est l'un des cœurs, l'un des nœuds de la création des musiques urbaines en Afrique de l'Ouest.
Le rap ivoire, la drill, magnifique, et sur l'aspect technique, bien sûr, l'utilisation des machines notamment.
Alors vous le savez Jacques, la Côte d'Ivoire a toujours été un vivier de grands musiciens, on le voit au FEMUA, nombre de talents se succèdent sur les scènes, ça joue comme on dit dans le milieu, ces très bons instrumentistes sont ouverts aussi sur le monde et les machines pour créer par exemple des boucles électroniques qu'on entend aujourd'hui partout. Avec un ordinateur, des petits génies du son, du rythme, créent des hits. Et comme partout, lorsqu'un beatmaker se fait connaître, il provoque l'envie. Si une guitare coûte cher, une batterie encore plus, les musiques électroniques ne nécessitent pas au départ beaucoup de moyens. Ça participe aussi à la démocratisation du son. même si, bien évidemment, il faut avant tout du talent.
Le FEMUA ancré en Côte d'Ivoire, ancré à Abidjan et dans les villes où il se délocalise, serait-il différent en termes de musique s'il se passait dans une autre capitale francophone ?
Très vaste question, Jacques, pour être honnête. Chaque pays a sa propre identité, sa propre culture musicale, dans la langue, dans les mélodies, dans son histoire. Et le FEMUA est devenu un lieu pour les faire entendre avec les pays invités, notamment la Guinée-Conakry cette année. Un artiste reggae comme Takana Zion, qui joue depuis 20 ans, a exploré tous ses styles. Il a aussi voyagé en Jamaïque, aux États-Unis, en Europe. Et il reverse dans la marmite musicale toutes ses influences. Et c'est une idée d'ailleurs de l'équipe du FEMUA, de Salif Traoré, le commissaire général. Une idée qui est en train de germer que la décentralisation du festival se fasse, pourquoi pas, dans des capitales de la sous-région. Car on l'a entendu, cet événement va plus loin que la musique. À voir si les moyens, si une volonté collective aussi se crée pour permettre cette décentralisation à l'étranger.
Qui vient au FEMUA, Guillaume ? Les Ivoiriens, bien sûr, hein, mais au-delà ?
Toutes les générations et toute la sous-région. Pourquoi ? Car Abidjan est une capitale des communautés de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Burkina, du Mali, de Guinée. Une immigration de longue date économique, notamment. Abidjan est un aimant depuis les indépendances. Et les crises actuelles au nord du pays, dans le Sahel, n'ont pas freiné, au contraire, cet exode. La Côte d'Ivoire a toujours été et restera une terre d'accueil. Et donc, on retrouve tous ces publics autour des scènes du FEMUA.
Allez, pour être direct, le côté social du FEMUA, la sensibilisation aux différents problèmes de société, sécurité routière, MST, est-ce que tout ça ne plombe-t-il pas finalement la fête pour les jeunes ?
Au contraire, je pense que le village du FEMUA, justement, qui vit quasiment 24 heures sur 24, est au cœur de cette destinée du FEMUA. L'Institut National de la Jeunesse et des Sports, c'est un immense campus, notamment pour de nombreux étudiants, sportifs de haut niveau en devenir. Et donc, alors que la musique résonne sur la scène à Numabo, par exemple, ça joue à côté au football, au volley, au hand, la vie continue. Et c'est le festival qui s'intègre dans cet espace en apportant aussi, justement, des outils de développement, on l'entend dans le reportage, en proposant par exemple cette année aux jeunes, aux étudiants, aux voisins des quartiers alentours de venir faire tester leurs yeux. Et on l'a vu, l'affluence est importante. L'adhésion à ces projets du FEMUA est collective.
D'Abidjan à Daloa, vous nous l'avez dit, 7 heures de route et cette migration, elle a lieu.
La décentralisation, c'est vraiment intéressant, Jacques, car le FEMUA voyage en caravane. Tous les métiers sont ensemble, les artistes, l'équipe du festival, la presse, les acteurs politiques. Donc oui, l'effet est immédiat car en créant cette forme de solidarité, les contacts deviennent simples, efficaces, le travail aussi devient beaucoup plus efficace. Et sur place, on l'a vu à Daloa, c'est l'exemple. Ce n'est pas une délocalisation au rabais. L'exigence d'Abidjan est la même dans la ville de la décentralisation. Et d'ailleurs, un point sur ce terme qui est un choix du FEMUA. La décentralisation, c'est un terme politique, économique. La musique, d'une certaine façon, emporte avec elle et permet de travailler tous les axes de développement possibles.
Guillaume Thibault, merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Réalisation cette semaine, Eva Piedel, Pauline Leduc et Robin Cusneau. Demain, lundi, dans Grand Reportage, 19h40, temps universel, la politique de natalité en Chine, difficile de la relancer. Un reportage de Cléa Broderst. Et tout de suite, un nouveau journal.